Parlons-en sans tabou avec le rave Shalom Guenoun.
Bonjour à tous, bonjour à tous nos auditeurs et auditrices et bienvenue à l'émission Parlons-en sans tabou sur Radio Torah Box. Pour vous accompagner tout au long de l'émission, je suis le Rav Shalom Guenoun. N'hésitez pas à nous poser vos questions, vos remarques à l'adresse suivante radio@torah-box.com. La devise de notre émission, comme vous le savez, est de traiter de tous les sujets sensibles du judaïsme en les soumettant à la critique rationnelle. La semaine dernière, nous avons entamé le sujet fondamental des origines de la vie. Nous avons comparé les dires de cette théorie, de la théorie du hasard, à la science, au bon sens et à la logique. Et nous avons vu que cela n'allait pas de pair. Quand je parle de la théorie du hasard, évidemment je parle de la théorie de l'évolution, mais je ne parle pas du fait que Dieu a pu créer le monde d'une manière échelonnée, d'une manière évolutive. Il y a des sources dans le Midrash qui disent que Dieu a créé le monde par étapes. D'autres sources qui disent que Dieu a créé le monde en one shot, tout d'un coup. Betzivyonam nivreu. Adam a été créé tel un homme de 20 ans, prêt à profiter de ce monde qui lui était déjà réservé final, d'une manière finalisée. Je parle juste de la théorie du hasard. Attribuer au hasard un tel projet, une telle intelligence, une telle vie, alors qu'il n'est pas doué de vie, alors qu'il est une matière morte, complètement hors de propos, complètement... Cela est contraire au bon sens, à la logique et à l'honnêteté intellectuelle. La première partie de notre émission, enfin la première émission, l'émission de la semaine passée, nous avons démontré, à travers du constat des merveilles de la nature, la probabilité mathématique, et aujourd'hui nous allons pousser un peu plus dans la science. Quel rapport la science entretient-elle avec Dieu? Pourquoi avons-nous l'impression que la science et la religion ne font pas bon ménage? D'où nous vient ce préjugé? Devons-nous choisir notre camp, c'est-à-dire croire en Dieu et bannir toute idée de l'avancée technologique à la façon des Hamish? Bien devons-nous jurer allégeance à la science et ne surtout pas évoquer l'histoire biblique sous peine d'être la risée de la communauté scientifique? Nous allons voir ensemble qu'en réalité le sujet du débat ne se situe pas là où nous le pensons, c'est-à-dire dans les faits, mais plutôt dans les croyances des uns et des autres. Et beaucoup, surtout une très très grande partie d'ignorance, tant de la science que des textes saints, nous poussent à nous tenir au milieu d'un monde coupé en deux, scindé entre eux, ceux qui croient en Dieu, ceux qui ne croient pas, ceux qui croient en autre chose que Dieu, en la science. Louis Pasteur n'a-t-il pas dit un jour « Un peu de science nous éloigne de Dieu, mais beaucoup nous en rapproche. » Alors essayons de suivre son conseil. Reste avec nous, nous nous retrouverons après la pub, et nous développerons notre sujet, nous mettrons notre enquête à bien.
On se retrouve tout de suite pour parler sans tabou avec le Rav Shalom Guenoun.
Organiser un cours avec un Rav de Torah Box, avec le service Torah Box chez vous, c'est enfin possible. Paris, Lyon, Tel Aviv, Madrid, Bruxelles, Montréal, Casablanca. Torah Box vient à votre rencontre. Organisez un cours gratuitement chez vous, entre amis, au travail ou dans votre communauté. Dans une ambiance chaleureuse, un Rav de Torah Box donnera une conférence et répondra à toutes vos questions. Réservez rapidement sur notre site, par email ou par téléphone.
Parlons-en sans tabou avec le Rav Shalom Guenoun.
Bonjour à tous nos auditeurs et auditrices, vous êtes à l'émission Parlons-en sans tabou, l'émission qui parle tout, ou presque tout en tout cas, du moins sans tabou. Le sujet du jour est le couple, la science et la religion. Comment font-ils bon ménage? En tant que juifs, nous vivons souvent le malaise de la Torah et science. Et il y a toujours un pour vous dire, eh ben alors, hein, 5780 ans, mais oh, t'as pas lu le résultat de la NASA ou quoi? Et du carbone 14? On a plus de milliards d'années, non? Ou encore, des articles scientifiques affirment sans la moindre réserve, nous avons retrouvé l'ancêtre de l'homme, c'est un Homo habilis qui vivait il y a plus de 3 milliards d'années. Et le spectateur néophyte n'a d'autre choix que de croire. Après tout, il passe à la télé, non ? Ils doivent bien dire la vérité. Et non, ce n'est pas absolument pas la preuve du vrai. Et au contraire, nous allons démontrer le contraire. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'au sein de la communauté scientifique, le monde n'est pas athée, tout le monde n'est pas athée, ni agnostique. En 2019, c'était une tracte qui était émise et signée par 1000 scientifiques, des détenteurs de doctorat au minimum, en somme des professeurs dans certains pays, qui émettaient leurs doutes sur la théorie de Darwin. La théorie de Darwin telle que nous la connaissons, telle qu'on veut nous la vendre. Où le hasard est la source de tout ce que nous, de la source de la vie et de l'intelligence telle que nous la connaissons aujourd'hui. Certains ont choisi de croire que le monde n'est pas le fruit d'un créateur, mais d'un mélange chimique qui serait apparu de nulle part pour muter au gré des contraintes environnementales. Je dis une croyance parce que c'est bien là une croyance. Dire que le monde s'est créé tout seul relève de la prophétie, sinon de la folie. Comment, à partir du résultat final, pourrions-nous remonter aux origines de la création et décider, sur la base de nos constatations limitées, pour le moins limitées, que tout cela s'est créé tout seul? Quelqu'un a-t-il assisté à la scène? C'est un argument un peu primaire, basique, mais tellement vrai, tellement fondamental. De plus, les constatations faites sur le terrain témoignent quasiment toutes de la trace d'un concepteur extérieur à la matière, qu'il aurait bâti, façonné et réglé, selon des lois nécessaires pour une minutie parfaite, donnant la possibilité à l'homme de vivre. Vous savez, tous ceux qui ne seraient pas du même avis que nous, enfin que moi en tout cas, à considérer les faits scientifiques que je vais émettre dans cette émission, et réagir. Mais avant cela, je l'invite à faire preuve de bon sens et d'esprit critique. Commençons par les faits. D'après Charles Darwin, propagateur de la théorie fondée par Lamarck 100 ans plus tôt, une molécule serait spontanément apparue des tréfonds du néant et aurait muté pour donner l'ordre suprême que nous connaissons aujourd'hui. Personne n'explique encore d'où vient cette molécule. Il y a des théories qui se balancent de ça et là. Certains les extraterrestres, d'autres rien en fait. Personne n'a vraiment de raison. On est en cours de recherche avec trois petits points. Loading, ouais. Et pourtant, on bâtit sur elle l'édifice de l'identité de l'homme. En tout cas, cette miraculeuse molécule, venue des tréfonds du néant, aurait muté. Elle, qui est ingénieusement créée par le fruit du hasard elle-même, tout d'abord encore complexe, qui aurait eux-mêmes muté encore un peu plus complexe pour donner la perfection que nous connaissons aujourd'hui. Or, si cela est vrai, il devrait y avoir un échelonnement, des essais, comme on essaie en laboratoire des choses. La matière qui, nous le rappelons d'après leur dire, n'est pas dotée d'esprit pensant, se doit de faire des tests, oui. Donc le poisson qui se transforme en albatros, c'est pas transformé directement en albatros. Il y a eu un demi-albatros, il y a eu une demi-aile, il y a eu une demi-patte, trois pattes. C'est des choses qui n'ont pas fonctionné dans l'environnement. Parce que je veux bien qu'on prête à la matière un esprit pensant, une ingéniosité, qu'on la dote du doctorat que les scientifiques et les biologistes n'ont pas eux-mêmes, parce que personne n'arrive aujourd'hui à... Vu la complexité de la cellule à reproduire une cellule humaine, bon, disons que la matière morte, inerte, a ces compétences-là. Mais du premier coup, elle arrive à faire passer d'un poisson à un albatros? Évidemment que non. Darwin lui-même l'a dit, que ça s'est fait sur des milliards d'années, cette évolution. Donc, je vous prie, où sont donc les ratés de l'évolution? Ceux qui n'étaient pas adaptés à la vie, comme le rat à deux têtes, le chien à trois pattes, l'aigle sans ailes, tout ce qui n'a pas marché pour s'adapter à l'évolution. Parce que, comprenez bien, que si tout d'un coup tout a marché, donc la matière est divine, d'accord, elle est dotée d'une programmation à l'intérieur divine, angélique, céleste. Et si c'est ça, on peut fermer les livres, revenir à la Bible, et c'est tout. Mais ils ne veulent pas dire ça. Et puisqu'ils ne veulent pas dire ça, ils veulent prêter à la matière une nature totalement matérialiste, non dotée d'intelligence, ni de but, ni de perfection, ni d'ingéniosité, ni de mécanique. Ouais. Alors je demande, où sont donc ce cheval doté d'une patte encombrante au milieu du torse, ce singe à trois têtes, et tous les autres ratés de l'évolution ? Bien que d'un point de vue logique, cela révélerait de l'esprit prophétique de la matière, qui opérait des millions de mutations fantômes étalées sur des milliards de générations, ou pour les néo-darwinistes, des millions de générations, des corps totalement matérialistes qui planifieraient intelligemment leur propre conception, prévoyant ainsi leur propre bagage génétique, tous les besoins de leur transformation future. Car en y réfléchissant bien, messieurs, dames, l'aile du poisson n'a pas immédiatement muté. Ça lui a pris des milliards d'années avant d'atteindre son design final. Et pendant toutes ces générations, la matière aurait donc patiemment créé des mutations encombrantes qui ne lui seraient d'aucune utilité pendant des milliards d'années, attendant que le produit s'achève, se finalise. C'est contraire à la génétique. C'est de la pure folie, mais nous y reviendrons. Mais surtout, si cela est vrai, nous devrions retrouver les traces. Imaginez-vous, disait le professeur Doron Orbach, directeur de l'unité d'électrochimie de l'université de Bar-Ilan, un maçon qui taillerait un meuble à partir d'un arbre. Pensez-vous pas qu'il y laisserait quelques chutes, un amas de copeaux détachés des extrémités de l'arbre taillé ? Alors où sont donc ces chutes, demanda-t-il, lors d'une de ses conférences. Voulez-vous dire que le hasard est plus intelligent et propre que l'intelligence elle-même ? Darwin disait lui-même que si sa théorie était véridique, nous sommes censés trouver des millions, voire des milliards d'êtres transitionnels qui se seraient développés d'une espèce à l'autre. Et vous allez me dire, on ne trouve pas forcément tous les fossiles. Sachez aujourd'hui qu'en 2020, il y a plus de 300 millions de fossiles qui ont été trouvés dans le sol. Des fossiles, c'est-à-dire des formes qui ont été cristallisées dans la roche. Des formes toutes, pleines, complètes, entières. Aucune forme transitionnelle n'a été trouvée. Et nous sommes 160 ans après. Alors, on nous baratine parfois avec un os de fémur par-ci, une dent par-là à laquelle on retrace le portrait. Une hanche par-ci, un début de crâne par-là, je vous en prie. On devrait retrouver des milliards de formes transitionnelles, parce que c'est des milliards de ratés de l'évolution qui se sont étalés sur des milliards d'années. Et il y a 300 millions de fossiles. Tu peux pas me trouver un fossile clair d'un primate qui serait l'ancêtre de l'homme. Un vrai fossile, pas une petite dent par-ci par-là ou un petit ongle par-ci par-là. Je vous en prie. Un peu de bon sens. Je vous donne quelques exemples phares. En décembre 1912, une nouvelle retentissait. Une forme transitionnelle avait été trouvée à Piteldown, en Angleterre. L'homme de Piteldown. Pendant 40 ans, la représentation de ce crâne fut exposée dans plus de 300 musées au travers le monde. Des générations entières de scientifiques ont fondé leurs travaux dessus. Des thèses entières ont été écrites. Jusqu'à ce que le 21 décembre 1953, l'affaire éclata. L'homme de Piteldown n'était qu'une supercherie. Il s'est avéré en réalité qu'on avait assemblé une mâchoire d'orang-outan à un crâne humain. La supercherie fut dévoilée par l'un des directeurs du British Museum, qui avait soumis le crâne à un réexamen plus approfondi en présence de deux professeurs de l'université d'Oxford. Les traces du fluor représentées dans les os de l'homme de Piteldown étaient incompatibles avec l'âge qui lui avait été donné. En fin de compte, il s'est avéré que sa mâchoire avait été taillée au bicarbonate afin de la vieillir, tandis que les dents avaient été limées. Pourquoi mentir ? Alors je parle pas d'une société machiavélique, etc. Je parle de gens croyants qui font tout pour affirmer leur croyance. Pourquoi ils croient ça ? Nous essaierons de le voir plus tard. Mais en tout cas, c'est faux. Pendant 40 ans, une espèce de forme à qui on avait retracé le portrait, donc on avait mis sur pied, a été mis et étalé dans plus de 300 musées pendant 40 ans. Et vous croyez que tous les musées ont retiré ces formes-là qui se sont avérés dans la presse comme étant des canulars? Non, messieurs, dames. Il y a encore des formes comme ça, dans certains musées de pays d'Europe. Pourtant, ça a été avéré faux. En 1922, Henry Osborne déclare avoir mis la main sur un fossile transitionnel découvert au Nebraska. Bien qu'il ne s'agissait qu'une simple dent, les experts lui ont recréé le portrait de toute pièce, et à partir de cela, ils lui ont même attribué une femme, lui ressemblant. Le couple du Nebraska était né. 5 ans plus tard, le fossile était identifié, n'étant qu'une vulgaire dent de porc. D'ailleurs, en 1927, le numéro 16 de la revue Science publie officiellement « Le monde de la science reconnaissait son erreur ». J'amène le Science qui dit ça parce que Science ne dit pas toujours ça. Elle publie beaucoup d'erreurs, beaucoup de traquenards, et ne publie pas tout ça. Peut-être que le canular était trop gros pour passer outre là cette fois-ci. Mais le mal était déjà fait. C'était plus d'un million de visiteurs qui s'émerveillaient devant la reproduction de cette Hesperopithecus à Holdoki, au musée d'histoire naturelle américain. Le professeur Renner Prost von Zitten, anthropologue réputé, spécialiste en datation. La communauté scientifique lui attribue des centaines de dates de datation. Jusqu'en 2004, où il fut renvoyé de l'université de Francfort pour falsification. Les experts estimaient que Prost ne savait pas se servir des appareils de mesure du carbone 14, et qu'il aurait délibérément caché son incompétence, et il aurait en daté des centaines de formes, leur attribuant un âge dont il n'avait aucune idée. Un autre exemple parmi tant, c'est le National Geographic, qui publia en 1999 un article sur l'archéopractor, une espèce dite intermédiaire entre les dinosaures et les oiseaux. On venait de découvrir un fossile en Chine. Puis, à la suite d'un examen au rayon X, il s'avérait n'être lui aussi qu'un guerre, n'être plus qu'un guerre, un vulgaire montage. En 1983, dans la forêt de Horse, en Espagne, un os daté de 9000 ans, par les scientifiques, de 90 000 ans, par les scientifiques, comme ayant appartenu à un adolescent de 17 ans, donc ancêtre de l'homme, on voulut-il dire. Jusqu'en 1986, où après un examen du crâne par une équipe de Français, le crâne s'est avéré n'être qu'un crâne d'âne de seulement 4 mois. Vous pouvez trouver ça dans le Challenge of the Fossil Record. Professeur Stephen Stanley, dit dans son Macroevolution, dans son livre qui s'appelle Macroevolution, le registre fossile connu ne documente pas un seul exemple d'évolution phylogénique, accomplissant une transition morphologique majeure, et donc n'offre aucune preuve que le modèle gradualiste puisse être valable. Autrement dit, les fossiles ne témoignent en rien d'une histoire transformiste, graduelle, mais plutôt d'apparition soudaine de créatures entièrement formées et fonctionnelles, soit de création spéciale. Un peu plus clair, non? Lucy, l'Australopithèque, le plus connu, découverte par Donald Johnson en 1974, s'est avéré n'être qu'un singe comme tous les autres, et non un hominidé. Marvin Lubenow le montre 20 ans après, par des études des fossiles sur les fossiles humains. Son bassin était en particulier plus large. C'est ça qui avait fait, qui poussait à attribuer le statut d'ancêtre de l'homme, et ses phalanges arquées témoignent bien qu'il n'était rien d'autre qu'un arboricole, un homme, comme nous tous. L'Homo habilis a ainsi été nommé car il fabriquait des outils de pierres très rudimentaires. Or, on a découvert que les chimpanzés actuels peuvent réaliser eux-mêmes des outils très simples, sorte de balais pour attraper des termites. La différence entre le singe et l'Homo habilis ne tient donc plus. L'Homo erectus pose lui aussi un sérieux problème, car il reste inchangé depuis 1 700 000 années. Il ne témoigne donc pas d'une évolution graduelle vers l'homme. L'homme de Néandertal, qui fut pendant longtemps considéré comme l'intermédiaire entre l'homme et le singe, a été reconnu maintenant comme n'étant qu'un Homo sapiens, comme nous. De plus, il faut savoir qu'il y a 6 000 espèces de singes qui ont disparu de la circulation. Donc, 6 000 espèces de singes dont on ne connaît plus. Si on les retrouve et qu'ils ne correspondent pas à une espèce connue d'aujourd'hui, pourquoi aller chercher plus loin? Ça peut faire partie des espèces qui ont disparu. Il y a 6 000 espèces, 6000 races qui ont disparu depuis. Le paléontologue français Pascal Pic écrit « Une des grandes questions de la théorie de l'évolution est celle-ci. Comment apparaissent de nouvelles espèces et de nouvelles lignées ? Ce qu'on appelle la macroévolution. C'est sur ce point essentiel que la théorie synthétique rencontre un grand problème. Car la microévolution opère lentement. La macroévolution opère lentement, graduellement, au fil des générations. La théorie synthétique défend l'idée chère à Darwin d'une évolution lente et progressive, ce qu'on appelle le gradualisme phylétique. La nature ne fait pas de saut. On ne passerait d'une espèce à l'autre qu'après une très très longue série de continues de microévolution. Cette idée soulève de vraies difficultés, notamment pour la lignée humaine, car plus on trouve de fossiles, plus on est incapable de préciser les séparations entre les espèces. Très clairement, depuis la publication de l'origine des espèces par Charles Darwin, la théorie de l'évolution a accompli de formidables avancées, mais avec un gros problème, l'émergence de nouvelles espèces qu'on appelle la spécification. Donc ce problème-là, on ne l'invente pas. Des paléontologues évolutionnistes comme Pascal Pic eux-mêmes disent qu'elle leur pose un sérieux problème, leur théorie. Allez, retrouvons-nous après une courte page de musique pour digérer tout ça et on se retrouve juste après.
אבל מה שאז קרה לא אשכח לעולם בן אדם מישהו גדול וחזק חטף מידי ענק שנתן לי אבא אוי אבא מה תגיד האם תסלח האם תקביל זה כואב לי אכזב אבא עברו
Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, vous êtes sur Radio Torah Box, l'émission Parlons-en sans tabou. Nous traiterons ensemble de la validité de la théorie de l'évolution spontanée, c'est-à-dire hasardeuse. Nous avons évoqué dans la première partie que si l'existence était le fruit du hasard, vu le si beau travail qu'elle a fait, elle mériterait même qu'on l'appelle Dieu. Nous avons mis en évidence que pas une seule forme transitionnelle n'avait été trouvée dans le sol. Même si les néo-darwinistes ont souhaité dévier le problème du manque de formes transitionnelles dans le sol et pour ce faire ont opté pour la génération spontanée, tout d'un coup tout s'est transformé d'une manière spontanée, c'est-à-dire une évolution qui fait des bonds, d'un coup sans créer gare, et vous transforme un chat en buffle grâce à une équation hyper complexe avec plein de X partout. C'est le problème qu'on regarde trop de X-Files. On s'imagine être Mulder après. En tout cas, cette nouvelle idée de la génération spontanée, dont on ne comprend pas pourquoi depuis 2000 ans, dont on est afflué de rayons électromagnétiques, d'effets de serre et de pollution, nous-mêmes ne nous changeons pas en table robotique. Mais bon, pour eux, la désillusion scientifique se fait entendre. Considérons les faits pour les néo-darwinistes et voyons en quoi cette déviation n'en est absolument pas une. La différence génétique entre un singe et un homme est de 1,02%, comme tout le monde le sait. C'est cette proximité qui leur a fait dire que voilà, c'est le maillon d'avant, l'homme. Parce qu'il faut vous rappeler que pour eux, tout vient de tout. Donc nous venons aussi de la mouche. En tout cas, du singe à l'homme, il y a 1,2% de différence génétique. La membrane génétique ou l'hélice de l'ADN est estimée à peu près 3 milliards de paires de lettres. 6 milliards de lettres, 3 milliards de paires de lettres. La fameuse combinaison de ACGT. Puisque nous parlons donc de 1,2% sur 3 milliards de séquences d'ADN, c'est soit plus de 3000 millions, qui représentent, 3000 millions de séquences d'ADN. Donc la différence entre l'homme et l'animal, pour parler de 1,02%, et de 50 millions de séquences qui les séparent. 50 millions de séquences d'ADN séparent le singe de l'homme, l'homme du singe. Ces séquences sont des étapes évolutives nécessaires, d'après eux, pour qu'un changement s'opère, et il faudrait pour cela 50 millions de mutations génétiques pour obtenir un changement réel. Ça, c'est l'effet génétique. Donc les mutations se doivent d'être constructives et non nocives, pour donner naissance à des générations entières de singes qui donneront eux-mêmes d'autres générations de singes plus évoluées, plus proches de l'homme, pour ensuite donner naissance à l'homme. Voyons la viabilité de statistique et logique d'une telle entreprise. Disons, et je suis généreux, et tous les généticiens seront d'accord avec ça, je suis généreux quand je donne un chiffre qui va dans leur sens, que dans chaque génération se sont produites 50 000 mutations hasardeuses qui tous ont miraculeusement été constructives et viables. 50 000 mutations génétiques par génération, c'est énorme. Mais bon, un calcul des plus simples montre qu'il faudrait 1000 générations pour que ces mutations opèrent. On aurait donc dû trouver, même pour les néo-darwinistes, 1000 formes transitionnelles dans le sol, donc 1000 sortes de singes différents, entre nous et le chimpanzé. Quand je parle de 1000 formes transitionnelles, je parle de 1000 générations de formes transitionnelles, soit des millions de spécimens dans le sol qui se seraient fossilisés au moins dans le sol. C'est-à-dire, il y a 1000 générations dans laquelle chaque génération implique une réelle génération, c'est-à-dire avec des millions d'individus, enfin des millions de singes dans sa génération, puis une autre génération avec encore des millions d'individus qui sont un peu plus évolués que les précédents. Une autre génération encore avec des millions d'individus, enfin des millions de singes, des millions d'hominidés, et ainsi de suite pendant 1000 générations. Donc 1000 générations multipliées par des millions de singes. C'est-à-dire, on en arrive à peu près des centaines de millions, voire des milliards de singes dans le sol. Enfin, de singes qui auraient existé, qui auraient, même pour les néo-darwinistes, qui auraient fait la différence, le pont entre le singe et l'homme. Pourtant, dans le sol, on ne retrouve rien. Même pour eux. Eux qui ont voulu éviter l'échelonnement graduationnel lent, ils doivent se confronter aussi au fait qu'il y a une différence du bagage génétique entre une espèce et une autre. si petite soit-elle, mais elle implique, même si on est très très large avec eux en fermant les yeux sur beaucoup d'impossibilités, parce que 50 000 modifications génétiques constructives sans qu'une d'elles soit nocive, c'est de l'ordre de l'imaginaire. Mais même si c'est comme ça, où sont ces millions de formes transitionnelles dans notre sol? Pourquoi on n'en trouve pas une? Et pourtant, il n'y a rien, nada, niette, rien. Alors, on nous a évidemment bercé avec les mutations. Et comme on n'y comprend rien, alors on boit leurs saintes paroles, et celles qui sont écrites dans les manuscrits des SVT, ou, entre parenthèses, tous les cas qui se sont avérés des canulars que j'ai cités, qui sont facilement pistables dans la presse internationale, se voient dans les manuels, se retrouvent dans les manuels des SVT. Mais révélons ce que sont réellement les mutations. Un grand nombre de mutations sont des mutations ponctuelles, correspondant à des erreurs d'une ou de plusieurs bases de l'ADN. Elles se produisent en permanence dans nos cellules, soit lors de la duplication de l'ADN, soit d'une manière spontanée, soit encore par l'action d'agents chimiques, des ultraviolets, de la radioactivité. L'enzyme qui duplique l'ADN se corrige elle-même en se relisant, et la cellule ne possède pas moins de 130 enzymes qui ont un rôle de correcteur. Donc c'est-à-dire que vous imaginez qu'il y a constamment comme ça des cellules qui peuvent hasardeusement créer des modifications génétiques alors qu'il y a un système de correction de ses propres modifications par 130 enzymes à l'intérieur de la cellule de l'ADN. Pourquoi créer un cellule contre-productif alors que le hasard, s'il fait si bien les choses, a pour idée de se modifier de lui-même? En tout cas, cela nous montre bien le caractère néfaste de la mutation pour la cellule. Malgré tout, un nombre relativement effectivement faible de mutations peuvent subsister, mais leurs conséquences sont majoritairement neutres ou négatives. Il suffit de constater les cancers et les autres maladies qu'elles produisent. À l'heure actuelle, on a dénombré entre 6000 et 7000 maladies génétiques et 500 et 5 nouvelles sont décrites chaque semaine. Je vous rappelle qu'on est en plein coronavirus, donc le SARS-CoV-2, le COVID-19, qui est dû à une modification génétique. Pour encore une fois souligner l'essence néfaste de la modification. Nul médecin ne pense aux modifications comme étant quelque chose de positif. En laboratoire, les mutations provoquées chez une mouche, la drosophile, n'ont jamais donné une évolution positive de l'animal, mais au contraire, les drosophiles sont demeurés des drosophiles et sont devenus, pour la plupart, handicapés, avec tout ce qu'on a voulu leur intenter. De même, les bactéries, malgré leur grande capacité naturelle à muter, demeurent des bactéries. Les mutations existent donc bel et bien, effectivement, mais la plupart sont neutres ou nuisibles pour l'individu, sans effet permettant une sélection, comme l'a démontré Moto Kimura, le grand Moto Kimura, que les généticiens et les biologistes connaîtront, sauront reconnaître. Donc au-delà de la mutation qui soulève le grand problème de l'établissement de la théorie, évidemment, comme nous avons vu dans l'émission précédente, il y a la probabilité mathématique que toute la complexité du monde et du corps humain qu'elle constitue est complètement en dessous, mais bien, bien, bien en dessous du zéro. C'est en réalité, ça a été mesuré par l'Institut Winstar en 67, lorsqu'il organisait un congrès, le Mathematical Challenge of Neo-Darwinism Interpretation, qui a mis en exergue les amendements d'une telle entreprise. Écoutez, arrêtons-nous là un instant, digérons un peu toute cette information, nous retrouvons après une petite page de pub, et nous conclurons le sujet avec des révélations détonnantes sur notre ADN, sur l'information et la complexité qui implique automatiquement, et d'une manière la plus logique qu'il soit, un esprit concepteur extérieur à la matière qui aurait conçu et programmé l'information que nous détenons en nous.
On se retrouve tout de suite pour parler sans tabou avec le Rav Shalom Guenoun.
Les éditions Torah Box, c'est des dizaines et des dizaines de livres pour les petits comme les plus grands, sur tous les sujets de la vie juive et abordés de manière accessible à tous. Paracha, histoire pour les enfants, construction personnelle, couple, Shabbat, fête juive, biographie. Chaque mois, ses deux nouveaux livres édités, vendus au prix les moins chers du marché et livrés partout dans le monde. Il vous suffit de les commander sur le site ToraBox à tout moment pour les offrir à votre communauté, à vos proches ou pour renforcer vos connaissances avant les fêtes. Les éditions ToraBox, des livres sur mesure pour vous.
Parlons-en sans tabou avec le Rav Shalom Guenoun.
Pour la dernière partie de l'émission, nous avons parlé de la géologie, nous avons parlé de la, dans l'émission précédente, nous avons parlé de la probabilité mathématique, du constat de l'architecture du monde. Cette fois-ci, nous allons parler de l'ADN. Pour moi, c'est une des preuves détonantes les plus spectaculaires de la conception intelligente, de l'intelligence design, de la signature de Dieu dans le monde. En 1953, Watson et Crick ont élucidé la structure de la molécule d'ADN. Ce qu'ils découvrirent allait changer la face de l'humanité. Ils dévoilèrent que la structure de l'ADN lui permettait de stocker des informations sous la forme d'un code numérique à 4 caractères, des chaînes de produits chimiques séquencées avec une précision appelée les bases nucléotidiques. Ces dernières stockent et transmettent des informations d'assemblage, des informations quoi, pour construire des molécules et des machines protéiques, essentielles à la survie de la cellule. Une vraie nano-usine à l'intérieur qui dit à chacun quel est son rôle et qui affrète carrément des machines à l'intérieur pour prendre, comme une espèce de petit bateau, pour prendre une acide aminé, enfin, un enzyme qui va être à la base de la création de la protéine, qui les achemine dans un petit bateau, qui ouvre une porte avec, dans lequel un signal de reconnaissance a été donné pour ou laisser passer la protéine, la petite voiturette qui vient se regarer là où elle doit patienter pour attendre un autre signal. Parfois, lorsqu'il y a une erreur, ça existe une erreur dans la... Dieu, comme nous l'avons dit, à la radioactivité ou à un quelconque autre phénomène épigénétique. Il y a une autre machine qui vient corriger le tir. Quelque chose qui est détonnant, une vraie nano-usine, quoi. Et tout est érigé par les 6 milliards de lettres, soit les 3 milliards de paires de lettres que sont le couplet de l'information qui est contenue dans les nucléotides de la liste de l'ADN. Et Francis Crick a développé l'idée selon laquelle les constituants chimiques de l'ADN fonctionnent comme des lettres dans un langage écrit ou des symboles dans un code informatique. De son nom scientifique, l'hypothèse de séquence. De la même manière que des lettres disposées les unes à côté des autres dans un assemblage choisi par son auteur sont intelligibles, les séquences de bases chimiques le long de la colonne vertébrale de l'ADN transmettent des instructions précises pour la construction de la protéine. Les séquences de l'ADN transmettent des instructions, remplissent des fonctions et produisent des effets spécifiques. Le théoricien en information génétique Claude Shannon explique que les séquences d'ADN ne représentent pas seulement un degré d'improbabilité mesurable par la mathématique, c'est improbable qu'il se soit créé d'elle-même, qui est en soi une preuve de son ordonnancement dirigé par une intelligence supérieure. Il contient des informations dans le sens le plus riche et le plus ordinaire du dictionnaire, de séquences ou d'arrangements alternatifs de caractères qui produisent un effet spécifique. On appelle ça sa découverte l'information of Shannon, du nom de son auteur. C'est-à-dire que l'information qui est codée en nous est une information intelligente, une information riche de sens. La matière morte n'a pas pu créer une information riche de sens. La matière morte n'a pas pu créer de l'information. Le docteur Stephen Myers, docteur en philosophie des sciences, géophysicien, directeur du Centre Discovery Institute de Seattle, écrit dans son livre « Signature of the Cell » que la complexité de l'information codée dans l'ADN est dotée de sens riche, est la preuve irréfutable qu'une intelligence supérieure extérieure à la matière est la conceptrice de l'existence. Alors vous vous demandez peut-être comment tous ces hommes de science s'accordent-ils avec ces données, on ne peut plus clair. Et c'est ça qui nous porte souvent à mal. Quoi, autant de gens chevronnés qui croiraient en la théorie du hasard Tout d'abord, il faut comprendre qu'il y a autant de gens au moins qui ne croient pas à cette théorie. Simplement, ils sont moins médiatisés, ils sont moins mis en avant, ils ne sont pas jetés comme des garde-fous, des garde-chiens de fous comme Richard Dawkins qui sur les plateaux de télé, s'évertue à essayer de démontrer à des rabbins, à des ignares parfois, la théorie du hasard, avec toutes sortes de formulations chimiques hyper complexes, alors qu'en fait, quand on s'y connaît, quand on s'est déchiffré dans ces mots le calcul mathématique, on voit qu'il y a là le calcul mathématique de l'improbabilité. J'imagine que les scientifiques, de vrais scientifiques sur leur canapé doivent s'arracher les cheveux en disant « Mais comment tu peux vendre ça aux gens ?» Mais il y a des scientifiques qui croient à cette théorie-là. Pourtant, les éléments que nous connaissons, que nous avons présentés, nous avons étalés ici, qui sont tous, avec leurs références, sont tous vérifiables. Alors comment s'arrange-t-il avec ces éléments-là qui implique qu'il y ait une force extérieure qui a conceptualisé le monde. Si ça avait été le hasard, il aurait dû avoir les preuves dans le sol. Si ça avait été le hasard, il aurait dû avoir une probabilité beaucoup plus grande. Si ça avait été le hasard, elle n'aurait pas pu créer un sens dans la matière, comme le Jonathan Grick, ingénieur en intelligence artificielle, un des plus renommés en monde, il dit que nous savons par expérience que toute code, toute programmation codée est le fruit d'une intelligence et d'une pensée et d'une intention extérieure. Ça aussi, ces scientifiques le savent. Alors comment règle-t-il ce problème-là? Je vous propose de les lire, tout simplement, de les écouter, de savoir comment ils font la part entre la science objective et la théorie. Bon, certes, une théorie est spéculative et hypothétique, mais comment font-ils le lien? Alors prenons le prix Nobel George Wald. On tape chez les plus hauts. Il déclara un jour, la machine la plus sophistiquée qu'un homme n'ait jamais créée, par exemple l'intelligence artificielle, est comparable à un jeu d'enfant face à l'organisme le plus simpliste du corps humain. L'homme n'a qu'à considérer la tâche incommensurable que représente le corps humain pour comprendre que la création d'une seule cellule par le hasard est tout bonnement impossible. Et il finit par dire, je cite, malgré cela, nous sommes là par le résultat, je le crois, d'une évolution aléatoire. Fin de citation. C'est complètement fou. C'est insensé. Dans la première partie de sa phrase, il dit c'est impossible que ce soit créé par le hasard. Et dans la seconde partie de sa phrase, dans le même souffle, hein, il dit je crois que nous sommes le fruit d'une évolution aléatoire. Je ne peux pas vous laisser comme ça, il faut que je vous donne la référence, parce que vous allez me... Des choses sont aussi grosses que vous allez me dire que je les invente. La référence, vous la trouverez dans The Origin of the Life, Origin of Life du Scientist American, volume 4, page 46. Parce que même aller voir ça par vous-même, c'est beau. Passons à notre prochain candidat à la vérité. J'ai nommé le prix Nobel Harold Urey. Lui aussi de... Pas lui, il est de l'Université de Californie. Il déclare « Chacun des chercheurs qui enquêtent sur les origines de la vie trouve, plus il approfondit le sujet, qu'il est trop complexe pour qu'il soit le fruit d'une évolution spontanée. » Écoutez bien. « Et malgré tout, nous nous rangeons à la foi de croire que la vie dans cette galaxie est le fruit de l'évolution de la matière morte. » Est-ce que j'ai décroché quelques sourires parmi nos auditeurs? Là aussi, il faut que je vous donne les références tellement que c'est artistique. C'est artistique ou sarcastique. En tout cas, c'est dans la revue Science Monitor du 4 janvier 62. Allez voir. Un petit dernier pour la route. Et non des moindres, le professeur August Weismann, un des pionniers de la génétique moderne, il déclara « Bien que nous ne pourrons jamais créer de nouvelles espèces en laboratoire, nous devons accepter le point de vue selon lequel la vie est le fruit du hasard, car seule cette optique nous donne des solutions sans avoir besoin de passer par une force surnaturelle. » Là aussi, je vous donne la référence. Mince, je ne l'ai pas noté. En tout cas, cherchez, vous trouverez, c'est risible. On a notre fameux Spinoza qui à la fin de sa vie dans les confessions d'un athée, qui disait « Nous avons voulu éradiquer Dieu de notre vie pour donner naissance, pour laisser nos instincts se libérer. » J'ai pas d'explication autre que les faits. Il y a les faits qui nous invitent à constater que c'est impossible. Il y a d'autres scientifiques qui y croient dur comme fer. Et ces scientifiques qui croient dur comme fer ne nient pas ces faits, comme nous l'avons vu. Mais ils ont quelque chose de plus. Ils se soumettent à la croyance, à la foi, que le hasard a pu être celui qui est à la source de tout. Car, comme le professeur l'a lui-même dit, seule cette optique nous donne des solutions sans avoir besoin de passer par une force surnaturelle. Comme s'il fallait faire tout pour ne pas passer par cette force surnaturelle. Il fallait faire tout pour ne pas rencontrer Dieu. Peut-être nous brimerait-il nos instincts? Peut-être devrons-nous-t-il rendre des comptes? Peut-être que nous ne savons pas exactement ce que Dieu dit. Peut-être que nous sommes, qu'ils sont, amendés, ils souffrent du fait de ne pas comprendre le rapport entre un Dieu de bonté et un monde qui est complètement lâché aux mains du mal, a priori, je dis a priori parce que c'est pas vrai, parce que nous savons que nous sommes limités par la limite de notre vision, tel un homme qui irait voir un couturier et qui le regarderait par la serrure de son atelier, voyant déchirer des habits et casser des beaux tissus, en se disant « mais c'est un destructeur celui-là, ce n'est pas un confectionneur ». Et un homme sage qui lui dirait, qui lui taperait la main sur l'épaule en lui disant « attends, patiente, tu n'as qu'une vision limitée de la chose ». Effectivement, une heure plus tard, il sort avec un habit tout propre. Le Ramban dit dans la Gdama, dans l'introduction de Yov, que la raison pour laquelle les hommes quittent les sentiers de la foi principale n'est pas forcément l'exacerbation des plaisirs de ce monde-ci, ou l'orgueil du fait de ne pas vouloir être dicté dans sa conduite par une quelconque loi au-delà de l'homme, mais par justement cette question douloureuse. Pourquoi y a-t-il des âmes justes qui souffrent? Pourquoi y a-t-il de la souffrance dans le monde si Dieu est bon? Nous avons plusieurs réponses à cela. Ou bien parce qu'ils sont souffrants de cette question-là, ou bien parce qu'ils sont... ils veulent laisser le monde libre cours à sa non-morale, à sa morale en tout cas matérialiste, qui dit que nous ne sommes rien de plus que de guerre bestiole, donc qui n'ont pas d'engagement ni à la conscience, ni à la morale, ni aucun devoir de brimer ses passions, ni d'amender ses rêves. En tout cas, nous y sommes. Nous devons, pour ces gens-là, éviter Dieu. Il faut bien... toujours est-il dissocier le domaine de compétence des scientifiques des valeurs communément admises de la communauté scientifique qui ne sont que spéculations, théories et autres croyances. Les scientifiques ont amené beaucoup d'avancées à l'humanité dans leur rapport à la matière, dans leur rapport dans leur façon de gérer la matière, de l'exploiter. Par contre, dans la source de la matière qui est totalement du rapport du domaine de la métaphysique, qui n'ont pas plus d'éléments que les penseurs et les philosophes, peut-être moi-même. Et il y a des gens parmi la communauté scientifique dotés de bonne foi, d'extrêmement bons, qui recherchant la vérité, qui sont beaucoup moins médiatisés que les autres. Et malheureusement, ce qu'on met en avant, c'est ceux dont on se sert pour déchaîner les passions d'une société dont on veut... qu'on veut consommatrice, comme disait John Rockefeller, qui est celui qui quand même a mis l'édifice de base de la société américaine dans sa culture. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi ne pas enseigner, comme Darwin lui-même l'a dit, les réfutations de la théorie de l'évolution au collège ou aux universités, plutôt que de ne l'enseigner que d'une traite, enfin comme étant une vérité inviolable. Il a dit, je ne veux pas une génération de penseurs, je veux une génération de travailleurs. Peut-être que c'est cela la réponse pour laquelle aussi les médias mettent tant en avant ces gens qui sont des détenteurs de cette foi. En tout cas, ce que nous savons, c'est que les détenteurs de la foi du hasard sont réellement des détenteurs de foi, duquel on peut même prendre exemple, qui contre toute attente, contre toute logique et rationalisme, se cramponnent à une foi qui est contredite par la génétique, par le registre fossile, par la probabilité mathématique, par le bon sens tout simplement. Ils ont peut-être des choses à y apprendre. En tout cas, pour ceux qui veulent que ça intéresse d'approfondir le sujet, je vous invite à consulter les articles que j'ai publiés sur le site. Ils ont tous été écrits avec leurs références à l'appui, et beaucoup d'entre eux ont été épaulés par des professionnels du métier avec qui j'ai discuté, j'ai débattu, j'ai peaufiné les informations. En tout cas, pour l'heure, je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Je vous rappelle que pour les réclamations, les questions, des réclamations, je pense qu'il y en aura peut-être, les questions, les mots gentils, c'est radio@tora-box.com. En attendant la semaine prochaine, je vous souhaite de bonnes choses, portez-vous bien et à bientôt les amis.
שיקת מלאכים לא נשבר לא נגמר אתה שציירת חיוך על שפתי ילדים על תפילות אנשים באורך יש חיים ולא חושך בתוכי אלוהי תשמע קולי על המר והמתוק מודה אני אתה שגשמת בי חלק חלומות רחוקים שהפכו לחיים נס גדול ים קסמים איך מתנגן בי תמיד אור אינסוף שמזכיר שאנחנו רק שיר ילד